Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Pays de Carcassonne, terre de séjour. Donc ça y est, le printemps est là et cela donne envie, chers auditeurs, d'aller gambader dans la campagne. Aussi, je vous ai invité Marie Pédemonte de l'association des sites du Pays Cathare. Bonjour Marie.
Bonjour Valérie.
Alors avant de nous parler plus précisément des sites sur le Pays Carcassonnais, nous aimerions que vous nous expliquiez les missions de cette association.
Alors l'association regroupe 20 monuments, ce sont des châteaux, des abbayes, des musées, qui sont tous liés à l'histoire médiévale et à l'histoire du catharisme en Occitanie. Donc on a la mission d'en faire la promotion pour que les visiteurs apprennent à les connaître et viennent les visiter, viennent les voir et viennent découvrir l'histoire de ce territoire.
Donc 20 sites uniquement sur l'Aude ou sur d'autres départements aussi?
Alors on a 18 sites dans l'Aude, un site dans le Tarn et un site dans l'Ariège. Donc d'accord. On a la maison des mémoires de Mazamet qui est dans le Tarn et le château du Son qui est dans l'Ariège. Sinon, les autres sites sont tous dans l'Aude, puisque l'Aude a eu une grosse histoire liée à cette période médiévale. Et donc, il y a beaucoup de vestiges de cette époque et beaucoup de sites qui peuvent accueillir du public et expliquer ce qui s'est passé.
D'accord. Donc, quand vous dites la promotion, donc qu'est-ce que vous réalisez concrètement pour tous ces sites?
Alors on leur fait des dépliants pour mettre dans les offices de tourisme, pour que les visiteurs qui veulent les visiter viennent prendre ces dépliants, savoir comment on y va, comment on les visite, à quelle heure, est-ce qu'on peut faire des visites guidées. On fait des salons touristiques, on fait des sites internet, on fait de l'animation pour qu'ils se connaissent tous et que quand on visite une abbaye ou un château, les personnes qui sont à l'accueil soient capables de vous indiquer quels sont les autres sites à proximité que vous pouvez visiter sur la même thématique. En fait, on essaie de faire tout ce qui est possible pour une meilleure mise en valeur des monuments et les accompagner aussi dans les outils de médiation, dans la manière de présenter les monuments pour que ce soit accessible à tout le monde. Donc avec des traductions en langue étrangère pour nos visiteurs étrangers, des adaptations pour les enfants, des choses comme ça.
Et alors vous faites également un agenda culturel sur la saison. Alors ça c'est important parce qu'on est toujours à la recherche des manifestations. C'est souvent difficile pour trouver sur une journée bien ce qu'il y a à faire. Donc vous réalisez cet agenda sur combien de mois?
Alors c'est toute l'année, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'animations sur la période d'avril à novembre. Il y a beaucoup d'animations, les monuments organisent beaucoup d'animations, de concerts, de fêtes, d'expositions. Et souvent, c'est vrai qu'on ne les connaît pas forcément, qu'on a du mal à trouver cette information. Donc on réalise cet agenda qui reprend toutes les animations qui sont mises en place sur les sites. Et pour que chacun puisse trouver ce qui l'intéresse, celui qui veut aller à des concerts.
Parce que vous l'avez par thématique et par jour également, non?
On l'a par thématique, on l'a par jour, on l'a par site aussi. D'accord. Si vous êtes à proximité de tel ou tel site, savoir que demain, y a une fête ou une fête médiévale ou un concert ou quelque chose comme ça, ça peut être une occasion d'y aller, de profiter, d'être à proximité d'un monument.
Et donc c'est retranscrit également sur le site internet, j'imagine.
C'est sur le site internet aussi.
D'accord. Alors, on va parler plus précisément des sites sur le Pays Carcassonnais. Il y en a donc 4, si je ne me trompe. 5? 5, oui, il ne faut pas oublier Carcassonne,
bah oui,
il est tellement gros que... Donc Carcassonne, Jean de Dolin, l'administrateur de la cité, était venu nous en parler il y a quelques temps. Donc on ne va peut-être pas revenir dessus, je crois qu'il nous avait fait une explication bien, bien précise. Et chers auditeurs, si vous avez raté, eh bien écoutez, vous pouvez retrouver Jean de Dolin, l'administrateur, sur notre site internet www.payscarcassonnais.com. Alors les 4 autres sites, Marie?
Alors, ce sont les châteaux de Lastour, l'abbaye de Villelongue, l'abbaye de Côte-Minervois et le château de Sessac, qui sont tous en Pays Carcassonnais.
Donc cela nous fait 2 abbayes, l'abbaye de Villelongue qui est plutôt côté Montaulieu, et puis là, donc l'abbaye de Cône sur l'est du Pays Carcassonnais. Quelle serait la différence entre ces 2 abbayes? Qu'est-ce qui fait qu'on irait plutôt voir l'une que l'autre, ou est-ce qu'elles sont semblables?
Non, elles sont très différentes. L'abbaye de Côte-Minervois est marquée dans... Dans Cône-Minervois, il y a une grande histoire avec le marbre de Cône qui est assez célèbre et l'abbaye, ce marbre a été utilisé pour faire construire l'abbaye. Mais c'est aussi une abbaye bénédictine, romane. Il y a eu beaucoup de périodes de reconstruction, de construction, d'amélioration. Donc c'est une abbaye sur laquelle on peut bien voir les différentes étapes de l'architecture. Mmh. Donc elle a un chevet roman, elle a des ouvertures gothiques, elle a beaucoup de choses qui permettent de bien définir les périodes de construction d'architecture. L'abbaye de Villelongue, elle est une abbaye cistercienne. Donc c'est une abbaye... un peu plus reculé, un peu plus intimiste, avec des propriétaires qui ont mis tout en œuvre pour faire un magnifique jardin.
Ah oui, c'est une abbaye romantique par excellence, voilà, avec le jardin.
Romantique, poétique, il y a beaucoup de petites choses dans ce jardin qui en font quelque chose d'assez agréable. Mmh. C'est aussi une abbaye cistercienne qui est remarquable par ses sculptures. Elle a un foisonnement de sculptures partout.
Et qui sont très visibles en plus, ce qui n'est pas toujours le cas des abbayes.
Qui sont très visibles, mais aussi le jeu, c'est d'essayer de les retrouver. Je sais, par exemple, il y a un visage qui est sous un chapiteau, donc il faut vraiment
un merveilleux visage,
là, oui. pour aller se pencher, aller le voir. Il y a également beaucoup de choses différentes qui sont représentées, des animaux, des plantes, des personnages. Donc c'est vrai qu'au niveau des sculptures, il y a beaucoup de choses à Ville-Longue. C'est aussi une abbaye qui a un vivier et un pigeonnier dans le jardin. Ça amène un charme très particulier à ce jardin qui est vraiment original.
Et puis on retrouve des concerts aussi l'été, aussi bien dans l'abbaye de Cosne que l'abbaye de Ville-Longue.
Alors l'abbaye de Cosne est connue pour ses vendredis classiques. Mmh. Donc en été, tous les vendredis, il y a des concerts. Ils ont lieu autour du chevet. C'est aussi vraiment un cadre très particulier,
oui, un très joli cadre.
Qui est agréable. Rien que d'aller s'asseoir sur ces bancs près du chevet pour écouter de la musique, c'est vraiment quelque chose de particulier. Et l'abbaye de Ville-Longue fait également quelques concerts. Voilà, dans cette abbaye aussi, c'est une autre démarche, mais toutes les deux ont quelque chose avec la musique qui est très fort.
Et puis bon, quand on est sur l'abbaye de Ville-Longue, on peut effectivement aller faire un saut à Montolieu, village du Livre, où il y a plusieurs points de restauration, et puis sur Cosne, il y a un village médiéval, et on retrouve aussi un café de pays où on peut déjeuner le midi. Alors les châteaux, château de Lastour, château de Sessac, semblables, différents?
Très différents. L'intérêt d'avoir tous ces monuments, c'est qu'on peut vraiment mettre l'accent sur les particularités de chacun. Donc les châteaux de Lastour, au niveau du monument, c'est un site vraiment très complet. Ce sont quatre châteaux sur la montagne. Lorsqu'on les visite, on peut les découvrir un à un. C'est une balade, une sorte de randonnée qu'on peut faire en famille. On voyage, on marche d'un château à un autre. Et ça nous permet d'avoir des vues sur les montagnes environnantes très impressionnantes. Mais à Lastour, il y a également le Castrum, qui est un village médiéval qui a été fouillé pendant plus de 20 ans par Marie-Élise Gardel. Et vous pouvez retrouver à l'accueil, en exposition, certains des objets qui ont été trouvés pendant ces fouilles. Donc c'est un site très suivi au niveau de la recherche. Il y a également le trou de la cité, c'est-à-dire ces grottes qui sont très...
Ah, il y a toute une histoire, oui, autour de ces grottes.
De ces grottes qui... Voilà, c'est un site vraiment très complet. Avec la princesse au collier, on a retrouvé des restes d'une princesse de l'époque très ancienne dans ces grottes. C'est vraiment... On l'appelait la princesse parce qu'on a retrouvé des bijoux avec elle.
D'accord.
Donc c'est vraiment un site qui se visite, qui prend du temps, qui y a beaucoup de choses à voir. Et à la fin de la visite, on peut même aller sur la montagne d'en face, le Belvédère, qui permet de voir les châteaux vraiment avec une autre vue. On les voit sur la montagne d'en face.
C'est là également que se situe le son et lumière, si je ne me trompe.
C'est là que se situe le son et lumière pendant l'été. Les jeudis, il y a un son et lumière qui raconte un peu l'histoire des croisades, l'histoire de ce site particulier.
Et puis un repas médiéval aussi, qui est mis en place depuis un ou deux ans à peu près.
Un ou deux ans, oui. Hein,
c'est assez récent, mais ça a beaucoup de succès.
Oui.
Donc c'est au mois de juillet,
au mois de juillet.
Donc pensez déjà à réserver, parce qu'il y a 200 places, mais ça se remplit assez vite. Donc, et puis, il faut dire aussi que sur les châteaux de Lastours, quand on y va au mois de juillet ou au mois d'août, on voit également les archéologues fouiller le castrum. Donc, c'est intéressant aussi.
Tout à fait. C'est vraiment intéressant de voir les chantiers de fouilles, d'avoir les archéologues sur place qui peuvent vous expliquer ce qu'ils sont en train de faire. Ils font même quelques visites guidées pour vraiment vous expliquer le déroulement des fouilles. Et c'est vraiment très intéressant. Ça a beaucoup de succès aussi.
Et puis pour finir, c'est également un joli cas de réhabilitation industrielle, puisque l'accueil des châteaux se situe dans une ancienne usine. Donc au lieu d'avoir une ruine, ben, effectivement, ça a été transformé en accueil. Et c'est encore une autre époque, donc c'est vraiment un village intéressant.
Oui, puis cette petite usine, elle est au-dessus du fleuve, donc c'est vraiment un cadre avec très intéressant, très agréable.
Sur le plan paysager aussi.
Voilà, sur le plan paysager, avant de monter... voir les châteaux.
Et alors c'est ça que c'est une vue déjà magnifique sur les Pyrénées. Donc là, on change complètement de décor.
Voilà, ils sont pas très loin, mais pourtant, c'est pas du tout le même décor, c'est pas du tout la même mise en valeur.
C'est
très différent. Donc on visite le site avec en faisant le tour à pied de la même manière que pour Lastours. Mais la particularité de ces sacs, c'est qu'à l'intérieur, il y a toute une exposition sur le trésor de ces sacs. On a retrouvé 2000 deniers dans le village de ces sacs, des deniers royaux, qui marquaient un peu l'importance du système royal en Occitanie. Et c'est vrai qu'il y a toute une exposition qui est très bien faite pour expliquer la monnaie médiévale, comment ça s'était utilisé, quelle valeur avaient ces deniers, comment ils étaient fabriqués, qui avait le droit de frapper la monnaie, comment ça se faisait et comment ça a fonctionné. Et c'est vrai que cette exposition est très intéressante.
Alors Marie vous le dira peut-être pas, mais en plus de ça, il y a un personnel d'accueil dans ces quatre lieux, enfin même les cinq en comptant le Centre des Monuments Nationaux, donc des gens qui sont passionnés, qui sont sympathiques, donc c'est toujours...
Si, je vais vous le dire.
Oui, mais les auditeurs pourraient croire que tu n'es pas objective.
D'accord, ok.
Donc je le dis, c'est vrai que c'est très agréable, on apprend vraiment plein de choses, et c'est toujours bien de parler avec des gens passionnés. Donc merci Marie pour... Cette découverte. Alors moi, chers auditeurs, je vous conseillerais deux livres. Alors un, je vais pas être objective, mais c'est le guide des 8 circuits en Pays de Carcassonne où vous retrouverez tous ces lieux. Et puis également aussi un livre qui s'appelle La découverte de l'art roman en Pays Carcassonnais aux éditions Loubatière, qui reprend également tous ces sites avec de nombreuses photos. Alors nous retrouverons Marie dans 15 jours et elle nous fera découvrir ses coups de cœur touristiques. Merci Marie et merci à vous auditeurs d'être toujours aussi fidèles.
Merci.